France Culture.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Voilà des années que l'on reparle de la fermentation, que les chefs exhibent leurs bocaux dans les cuisines de leurs restaurants, que les kéfirs, miso et autres kombucha investissent les rayons non plus seulement des enseignes bio, mais de nos supermarchés, que les pickles sont mis à toutes les sauces. Pourquoi ce goût pour les champignons, les bactéries, les levures et autres moisissures qui pendant longtemps n'ont inspiré que répulsion et qui aujourd'hui fascinent. Deux livres viennent donner leur éclairage en ce début d'année 2025. Le premier s'appelle « Fermentation, rébellion, petite philosophie de la fermentation ». Il est signé Tian Yuan Do. Bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Et merci d'être avec nous.
Merci
et
beaucoup.
Il est édité par Les Équateurs. Vous êtes Tian Yuan Do, paysanne, cueilleuse, vigneronne et adepte de la fermentation au point de vous dire fermenteuse. Fermenteuse plutôt que fermentateuse. Fermenteuse. Hein. Jolie fermenteuse quand même. Installée en Dordogne, sur le domaine viticole de Combriac. Et puis le deuxième livre, c'est Fermentation au pluriel, kéfir, compost et bactéries. Pourquoi le moisi nous fascine, un livre édité au Seuil par Anne-Sophie Moreau qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes plutôt philosophe et journaliste. Vous êtes rédactrice en chef à Philosophie Magazine, mais vous n'êtes pas spécialement pratiquante de la fermentation. Et c'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Pratiquer et philosopher, c'est parce que la fermentation, Tian Yuan Do, c'est les deux à la fois. C'est une pratique et une philosophie de vie.
Alors c'est en fait une pratique qui, nous en tant que vignerons et vigneronnes, nous ont donné une matière à penser. C'est-à-dire qu'en fait la fermentation, c'est le cœur de notre métier. Les micro-organismes, les bactéries, les levures qui font partie du sol, qui donnent un sol vivant, qui permettent la culture, l'agriculture, c'est une chose, mais on s'est vite rendu compte aussi que ces mêmes bactéries et ces levures, elles étaient essentielles pour notre métier de fermenteur, fermenteuse et pour produire du vin. Donc c'est là où finalement nous avons réussi sur le domaine de Combriac à... Enfin, c'est pas qu'on a réussi, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, en fait, que cette philosophie du vivant, elle ne faisait pas que s'appliquer au visible, les grandes espèces qu'on essaye de sauvegarder, les ours blancs, les arbres. Non, il y avait tout cet invisible qui permet alors de développer une véritable philosophie, à la fois écologique, politique, mais aussi quelque part du sensible, et qui nous ramène finalement à repenser notre rapport au vivant.
Il faut dire que c'est un processus ancestral et naturel, la fermentation, quand même.
C'est un processus...
On en parle beaucoup depuis quelques années, mais c'est
très
vieux.
Sans la fermentation, il n'y a pas de vie. Déjà, la fermentation, c'est quelque chose qui nous est inhérent. La digestion, c'est une fermentation interne. Donc, plusieurs fois par jour, nous fermentons tous et toutes. C'est ancestral, puisque c'est un processus qui est spontané, qui intervient à l'état naturel, qui n'a pas besoin des êtres humains pour se produire. Et en fait, c'est grâce à la fermentation que l'espèce humaine a pu survivre jusqu'à présent. Il n'y avait pas de réfrigération avant, il n'y avait pas de congélation, il n'y avait pas de pasteurisation, il n'y avait pas de stérilisation. Le seul moyen de préserver, de conserver les aliments, des denrées parfois très fragiles, le lait, la viande, sur des longues durées, pour faire face aux périodes de famine, aux récoltes plus faibles, c'était la fermentation. Donc, c'est un processus qui existe depuis plusieurs milliers d'années. On retrouve des traces chez les Sumériens, chez les Égyptiens, pour la production du pain, la production du yaourt dans le Caucase. Donc c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. On redécouvre la fermentation parce que le lien était perdu. On a perdu notre lien avec l'alimentation, la production et la consommation de nos aliments. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous et toutes un peu en demande de retrouver un lien.
C'est ça qu'on va voir avec Anne-Sophie Moreau en particulier, parce que vous n'avez pas redécouvert la fermentation, vous faites partie plutôt de ceux qui et celles qui découvrent la fermentation avec le phénomène de société qui est devenu la fermentation. Plutôt récent, ce phénomène de société. On est passé, dites-vous, en quelques années, de l'ultra-frais au fermenté. Et c'est presque ça qui vous a intéressé au départ.
Oui, en fait, mon intérêt. Alors, vous dites que je ne pratique pas la fermentation. Alors, si,
vous
quand avez même
bien
un petit peu.
De le faire, un peu.
Je m'y suis essayée. Voilà, j'ai tenté moi aussi de préparer mon kéfir, de faire du yaourt, de me rendre à des ateliers de lactofermentation où on apprend à faire des légumes en bocaux, par exemple, etc., etc. Bon, comme je suis une piètre cuisinière, j'ai assez vite renoncé. Mais ce qui m'a intéressée, ça a été finalement le fait que aussi en tant que consommateur, pas forcément en tant que producteur, on avait tendance de plus en plus à se prendre de passion pour les micro-organismes en général.
L'invisible pas, dont parlait
voilà,
Chinuendo.
Pas seulement pour les produits fermentés. Moi, au départ, l'idée de ce livre, elle m'était venue lorsque j'étais dans un aéroport à Berlin, en train d'attendre un vol, et que, voilà, ayant les entrailles abîmées par des nuits bien arrosées, j'avais pris une boisson à la buvette, et j'étais tombée sur une bouteille de kombucha qui était présentée comme une boisson vivante. Le kombucha, c'est une symbiose entre divers micro-organismes, levures, champignons, etc. Et il se trouve qu'en même temps, je dialoguais par message avec un ami qui travaillait à la mairie de Paris et qui s'employait à généraliser la pratique du compost dans la ville. Et à ce moment-là, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait finalement que nous cherchons aujourd'hui à renouer avec ce micro-vivant que sont finalement ce qu'on appelait avant les microbes, à la fois pour nourrir et soigner nos entrailles, mais aussi pour finalement revitaliser, revifier, retrouver des formes de vie dans les artères d'une ville aussi minérale que Paris.
Alors même qu'on est dans une société hygiéniste
bien
depuis
sûr.
Quelques années.
Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un... Voilà, parce que c'est pas seulement une mode des aliments fermentés, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de phénomènes intéressants à observer dans nos sociétés, plutôt dans nos sociétés occidentales, parce que, comme vous l'avez dit, la fermentation, c'est un processus ancestral. Dans toutes les cultures, je crois, on fait fermenter des aliments. Mais on pourrait se dire qu'après tout, en Occident ou dans les pays ultra développés, on aurait peut-être, de nos jours, on n'a peut-être plus besoin de fermenter. On a des congélos, on a des boîtes de conserve, etc. etc. Or, on assiste aujourd'hui à une mode... En tout cas, un regain d'intérêt assumé et pensé, voilà, avec véritablement des militants de la fermentation pour les aliments. Par exemple, il y a des festivals de fermentation, etc. Et il y a aussi des innovations. Il y a par exemple des startups qui essayent de produire de la viande à partir de bactéries, enfin des succédanées de viande. On utilise les micro-organismes en architecture, dans le design, voilà, dans tout un tas de domaines. Je reviendrai pas là-dessus ici parce qu'on parle surtout de nourriture, mais voilà, le livre porte vraiment sur énormément de phénomènes qui dépassent de loin l'alimentation. Et la question que je me suis posée, c'est finalement, qu'est-ce que ça dit de nous, nous autres sociétés américaines, canadiennes, européennes, japonaises, qui se prennent de passion pour finalement une forme de conservation des aliments?
Vous avez une réponse.
J'ai une réponse ou en tout cas un questionnement.
Le besoin de régénération, oui. À la fois intérieure et sociétale.
Oui, voilà. C'est-à-dire que et je pense que nous sommes un peu travaillés par deux pulsions contraires, ou en tout cas c'est la question que je me pose. C'est-à-dire est-ce que dans des sociétés vieillissantes où nous avons entre guillemets peur d'un déclin, qu'il soit fantasmé ou non, est-ce que nous sommes en train d'essayer de stabiliser la dégénérescence, voilà, en apprivoisant le moisi finalement, ou bien est-ce que nous sommes en train de puiser une forme de régénération profonde à partir du micro-vivant, voilà, en cultivant la matrice de la vie pour renouer avec des formes de vie et avec un environnement que nous avons sacrément malmené.
Qu'en pensez-vous, Tian Yuendo?
Alors, c'est vrai que la fermentation, c'est quelque chose d'universel et ça peut dérouter, clairement, mais il y a vraiment cette universalité qui nous relie en fait à l'humanité passée et présente. C'est vrai que la fermentation est quelque chose qui existe dans toutes les civilisations, tous les pays, toutes les cultures, à toutes les époques. On regarde effectivement, si on regarde la fermentation de confort qui existe à l'heure actuelle dans les pays occidentaux, on peut peut-être sentir ou se poser la question d'une certaine vacuité, de se remettre à quelque chose qui fait partie d'une mode et d'une tendance. Mais dans la plupart des pays du monde, ce n'est pas un confort, c'est une réelle nécessité. Quand on va explorer les différents continents, en fait, ces fermentations étaient là pour assurer la survie. Et nous, on a tendance à regarder aussi la fermentation avec nos yeux d'occidentaux, à regarder la sacro-sainte trinité du vin, du pain, du fromage, ou bien peut-être un peu plus loin, ce qui sera le plus différent de nous, ce sera le miso, le saké, la sauce soja. Mais non, si on va au Mexique, il y a le huitlacoche, qui est en fait un champignon qui se met sur le maïs, on appelle ça la truffe aztèque ou le caviar mexicain. Il y a les matjes aux Pays-Bas, qui sont des arançors, qui est une délicatesse au printemps qu'on déguste. En Birmanie, il y a les feuilles de thé lacto-fermentées qu'on va consommer en mangeant. C'est le seul pays où on mange les feuilles de thé et on ne fait pas que l'infuser pour la boire. Donc, il y a vraiment une universalité. Mais en même temps, c'est quelque chose de très accessible. Comme je disais, la fermentation, c'est quelque chose de primitif, de manière pas du tout péjorative, mais c'est quelque chose dont à laquelle tout le monde peut avoir accès. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de matériel, de choses sophistiquées. C'est quelque chose qui est accessible à tous et à toutes dans nos cuisines. C'est low-tech, c'est anti-gaspi, c'est peu énergivore. Et il y a vraiment une vraie cohérence à retrouver cette pratique.
Et pour vous, Tuen Wendo, c'est aussi un acte réellement politique. D'ailleurs, votre livre s'intitule « Fermentation-rébellion ». C'est une petite philosophie de la fermentation, mais c'est la preuve en acte, puisque vous pratiquez beaucoup aussi, mais vous y réfléchissez, comme vous l'avez expliqué, que c'est un acte politique au sens que c'est renouer avec le vivant, donc c'est plutôt écologique dans un monde qui a du mal avec ce vivant aujourd'hui, avez-vous dit. C'est aussi un éloge de la diversité face à la standardisation du monde. Et ça, j'aimerais bien que vous le développiez, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans la philosophie qu'entend Anne-Sophie Moreau.
C'est l'éloge du goût. En fait, à l'heure actuelle, on est face à des produits ultra transformés, industriels, qui sont fades, qui sont les mêmes, quel que soit le pays dans lequel on se trouve sur la planète. Donc, la fermentation, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Ça vient retrouver des goûts, des saveurs qu'on a perdus. On a perdu ce lien. Moi, ça me surprend toujours lors des dégustations, puisque je suis vigneronne, quand les personnes on a tous l'expérience du goût, plusieurs fois par jour. Donc, c'est un organe qu'on possède tous. Or, on n'a pas tous et toutes la même expérience du goût et les mêmes facilités à en parler. Et c'est vrai que certaines personnes, parfois, confondent amer et acide. Et on en est à ce stade-là d'avoir perdu, face au sucré et au salé et au gras, avoir perdu ces sensations d'acide. Alors qu'il y a plusieurs acides. L'acide citrique n'est pas le même que l'acide tartrique, que l'acide malique. Donc, on est vraiment sur une palette chromatique très large que la fermentation va pouvoir nous ramener aussi, parce que la fermentation, c'est beaucoup d'umami, ce cinquième goût qui donne beaucoup plus de saveur, de profondeur, qui fait saliver. Et il y a vraiment un intérêt aussi gustatif à redécouvrir la fermentation.
Ce qui fait que défendre la fermentation, c'est aussi défendre les terroirs ou les territoires, Anne-Sophie Moreau.
Oui, bien sûr, parce que on l'a dit, dans tous les pays, on fermente. Et en général, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours chez chacun une forme de dégoût pour les produits fermentés. Voilà, les Américains...
Parce que souvent, c'est lié au pourri, justement. C'est lié au moisi, c'est lié au pourri, dans l'imaginaire collectif, en tout cas.
Lorsqu'on regarde la surface d'un roquefort, on dirait finalement une peau lépreuse. Voilà, il y a eu pendant longtemps, les anthropologues l'expliquent aussi, un dégoût pour ces formes d'aliments qui étaient soupçonner d'alimenter les sécrétions putrides à l'intérieur de nos corps, sous-entendu déclencher une forme de décomposition. Voilà, donc il y a aussi une terreur face aux fermentés.
Question de point de vue, hein. Faut bien le rappeler.
Mais question
de culture.
Évidemment, puisqu'en général, on est toujours dégoûté par l'aliment fermenté de l'autre. Voilà, tandis que chaque culture. Mais on se rend compte aussi qu'à l'inverse, dans chaque culture, il y a un attachement très fort aux produits fermentés qui, en général, représentent un héritage culturel, un héritage local, parfois ultra-local. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour reprendre l'exemple du roquefort, le roquefort ne peut fermenter et donner ce qu'il donne que parce que la bactérie Penicillium roqueforti se développe précisément dans les causes où le roquefort est produit. Donc, il y a véritablement cette notion de terroir, c'est-à-dire que le produit fermenté n'apparaît pas comme ça par magie n'importe où. Il se nourrit aussi des bactéries du lieu dans lequel il se trouve, et nous sommes aussi en tant que corps, en tant qu'espèce et en tant qu'individu, nourris de ce qu'on appelle l'héritage microbien. Voilà, vous avez l'héritage microbien de vos parents, de vos proches, de tout ce que vous avez mangé au fil de votre histoire, et votre microbiote, c'est-à-dire les milliards de bactéries qui peuplent vos intestins, sont influencés par ce que vous mangez. Et donc il y a un attachement, on va dire, très identitaire aux produits fermentés.
Vous le retrouvez, cet attachement identitaire? Vous le défendez?
Alors, c'est vrai que, alors, tout à fait. On a notre ADN microbien. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est puissant, c'est que c'est à la fois universel et c'est à la fois un geste très intime. C'est-à-dire que si je distribue ici autour de la table un chou, la manière dont on va le masser, imprégner notre flore en fait microbienne sur ce chou, va faire que la choucroute qui va en découler ne sera pas la même. Votre choucroute, Caroline, ne goûtera pas la même que celle d'Asophie, ne goûtera pas la même que la mienne. Donc on a sur notre peau des mini-terroirs, effectivement, qui impriment. Et c'est pour ça que ce travail de vigneron-vigneronne est fascinant. C'est-à-dire qu'à partir du même, de la même matière première, le raisin, en fait, il y a une déclinaison absolument infinie qui se produit et qui peut être imaginée à chaque saison.
Anne-Sophie Moreau ?
Oui, et moi, ce qui m'a semblé intéressant d'interroger dans cet essai, c'est finalement l'ambiguïté aussi de la symbolique sur le plan politique de notre rapport justement à cette diversité microbienne. Pourquoi ? Parce que je suis revenue aux écrits de Claude Lévi-Strauss, hein, qu'on connaît en général, on connaît vaguement la distinction entre le cru et le cuit que fait Lévi-Strauss.
On oublie souvent le bouilli.
Mais on oublie souvent qu'il s'agit de ce qu'il appelle un triangle culinaire, voilà, et que donc Lévi-Strauss classe nos différentes manières de préparer les aliments en trois pôles. Le troisième pôle étant le pourri, auquel il associe le bouilli et le fermenté.
Vous savez quoi ? On a retrouvé Claude Lévi-Strauss. On va l'écouter parler de sa trilogie. C'était sur Antenne 2 en 1982.
Il m'est apparu que dans un grand nombre de sociétés, y compris d'ailleurs la nôtre, il y avait en quelque sorte trois pôles de la préparation alimentaire. Le cru, le bouilli et le rôti. Et que quand nous essayons de parcourir l'éventail de sociétés, nous nous apercevons que des valeurs symboliques très précises sont attachées soit à la crudité et à la cuisson, ce qui est une position simple, soit à l'intérieur des modes de cuisson, entre une autre position simple qui est celle du bouilli et du rôti. Or, dans toutes les sociétés humaines, vous trouvez des distinctions de ce genre. De sorte qu'à travers ces catégories culinaires se projette ou se profile toute une représentation de la société avec ses hiérarchies et ses dignités et même toute une représentation du monde. Vous pouvez en tirer beaucoup d'enseignements sur le système de valeurs de chaque société. Et donc tout le problème du rapport entre l'homme et la nature se trouve en quelque sorte illustré comme dans une sorte de microcosme par les usages culinaires.
Anne-Sophie Moreau.
Oui, alors ce que Lévi-Strauss ne précise pas dans cet extrait, c'est qu'il qualifie aussi, en tout cas il associe ce qu'il appelle la cuisine du pourri et la cuisine du rôti à une forme de rapport au monde et de rapport à l'altérité. Il nous explique dans l'un de ses articles que ce qui est bouilli et sous-entendu aussi fermenté relève de ce qu'il appelle l'endocuisine, c'est-à-dire de plats que l'on a tendance à préparer plutôt pour sa propre tribu ou sa propre famille, tandis que tout ce qui est rôti, voilà, si on fait un cochon à la broche, ça va plutôt être pour accueillir, voyez, les étrangers ou les invités. Entre guillemets, relève aussi un peu du bon sens, c'est-à-dire que souvent on fait bouillir les mauvaises parties de la viande et donc on les garde aussi pour soi. Mais en tout cas, c'est la question que moi je me suis posée en relisant ces textes et en m'intéressant justement à cette nouvelle mode du fermenté dans nos sociétés. C'est finalement, est-ce que nous sommes, je dis bien nous parce que je m'inclus aussi hein, dans les fermenteurs, est-ce que nous sommes finalement terrorisés face au monde qui nous entoure.
Que c'est la peur de l'avenir qui nous
voilà, nous... c'est-à-dire que la mode de la fermentation, elle date d'avant, mais elle a aussi été évidemment renforcée par la crise du Covid, par la perception d'un monde hostile, voilà, de politique auquel on ne comprend plus rien, par la perspective de la guerre en Ukraine, etc. Moi, j'ai discuté avec une boulangère néo-rurale qui m'expliquait qu'elle n'écoutait plus la radio parce que ça faisait tourner son levain. Je me suis demandé si, dans cette mode, voilà, du bouillon, du fermenté, est-ce que finalement nous sommes dans une forme de retrait, vous voyez, dans la perfection des sphères des légumes lacto-fermentés, est-ce que nous cherchons à retrouver une forme de perfection dans un bocal pour nous nous protéger d'un monde qui nous semble trop hostile, ou bien est-ce qu'au contraire, nous sommes en train de cultiver une forme de diversité, d'ouverture à l'autre, justement en allant chercher la diversité microbienne ?
Tian Yuendo.
Alors, effectivement, pour moi, c'est la fermentation, c'est quelque chose de très joyeux, très créatif, et c'est aussi quelque chose de collectif. C'est-à-dire que quand on revient à la fermentation, c'est quelque chose qui a toujours été fait de manière communautaire. Les vendanges, c'était une grande fête collective. Le four banal, on l'allumait une fois par semaine, tout le village apportait son pain pour le faire cuire. Le kimchi, qui est une préparation traditionnelle en Corée à base de légumes, qu'on peut rapprocher de la choucroute dans nos contrées, c'est aussi une grande fête où la famille, le voisinage se rassemble pendant des jours et des jours pour fermenter. Donc il y a vraiment une dimension collective, il y a une dimension de transmission.
Qui repose sur l'échange.
Exactement, il y a une dimension de partage et donc effectivement d'altérité. À côté de ça, j'entends le discours d'Anne-Sophie Moreau sur la perfection. Or, ce n'est pas du tout ça la fermentation. La fermentation, c'est l'éloge de l'échec. Par définition, comme on travaille avec un matériel qui est vivant, les micro-organismes qu'on ne peut pas contrôler, il n'y a pas de maîtrise possible sur ces micro-organismes, il faut, avec humilité, accepter que justement, il y a une part de lâcher prise et que l'échec est possible. Même nous, en tant que vignerons-vigneronnes, il y a des années où ça se passe pas bien. Il y a des fois où ça ne fermente pas correctement. Le goût n'est pas forcément au niveau de nos exigences. Un pain peut être magnifique un jour et puis le lendemain, vous allez faire la même recette, appliquer la même chose.
C'est imprévisible, en fait.
C'est une galette plate, c'est imprévisible. Donc, il y a cette distance ça permet de relativiser énormément sur le temps long, et sur cet échec. Et c'est pareil en tant que consommateur, consommatrice, c'est-à-dire que si vous voulez goûter un vin nature, alors c'est le jeu, c'est le risque, justement parce que c'est un savoir-faire, parce que c'est travailler avec le vivant, c'est de se dire que parfois ça goûtera bien, même très très bien, parfois ce sera moins bon. Mais c'est ça, c'est justement la joie qu'on peut retrouver dans la fermentation, c'est de pas être face à quelque chose qui est maîtrisé, contrôlé, comme dans les aliments agro-industriels.
Vous venez de parler de cet échange propre à la fermentation. Nous sommes en ligne avec une agricultrice et productrice de lait et de fromage. Et la particularité du lait et du yaourt, en fait, que fait Élise Laudren, qui est avec nous par téléphone, c'est que le ferment se transmet de producteur en producteur, d'où cet échange. Bonjour Élise Laudren.
Bonjour.
Vous êtes donc agricultrice et productrice de lait de fromage et d'un lait particulier qui se transforme en yaourt, qui est le Gouel, avec votre associé Yann Clausel à la ferme du Rhin dans les Côtes d'Armor. Alors déjà, c'est quoi le Gouel ?
Alors en fait, le Gouel, c'est pas tout à fait un yaourt. C'est plutôt un lait fermenté, justement, qui est vraiment traditionnel de Bretagne et qui se faisait avant dans toutes les maisons bretonnes. Donc traditionnellement, il y avait au moins une ou deux vaches bretonnes pinoires dans chaque petite ferme de Bretagne. Et donc, on mettait sur le coin de la cuisinière à chauffer et à fermenter ce lait et qui aujourd'hui s'appelle le Gouel. Et effectivement, donc c'est très très juste ce qui a été dit juste avant, parce que c'est quelque chose, c'est un ferment du coup qu'on se transmet entre producteurs. En fait, on ne sait pas exactement au départ comment a été produit le premier Gouel, avec quel ferment, mais du coup depuis on se le transmet, et ça arrive effectivement, comme vous disiez juste avant, que parfois il soit moins ferme, parfois la texture effectivement change un petit peu, ou le goût soit un petit peu moins acidulé, et dans ces cas-là on peut aller rechercher un ferment chez la quinzaine de producteurs bretons que l'on est, pour réensemencer avec des nouvelles avec un nouveau ferment, quoi.
C'est quoi la différence, Élise Laudren, avec le lait ribot ?
Alors, ça n'a rien à voir en fabrication, vraiment, parce que le lait ribot, c'est un sous-produit du beurre, finalement, alors que ici, c'est vraiment du lait entier de vache que l'on met à chauffer, et on introduit dedans une petite quantité du gouel de la foie d'avant, de la production d'avant.
Et on obtient donc une sorte de yaourt bulgare plutôt onctueux, léger pour l'estomac, au goût plutôt frais et acidulé, que vous dégustez comme un yaourt nature ou sucré, mais que vous pouvez mettre sur des pommes de terre, des galettes, avec de la compote de pommes, ça peut être en dessert, ça peut être en salé, en sucré, comme on veut, quoi. C'est un peu ça ?
Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc, on a une texture plus onctueuse, voilà, et parfois un petit peu filante comparée à un yaourt. Et puis, du coup, un goût vraiment très très doux en bouche, mais en même temps, on a ce retour de sensation un peu acidulée, effectivement. Et donc, ça se consomme. Majoritairement, les gens le consomment comme un yaourt. Donc, beaucoup le matin aussi, ils aiment bien prendre ça le matin avec du muesli ou des choses comme ça. Et puis, mais ça peut se manger avec les galettes, les crêpes de blé noir. Voilà, ça peut se manger aussi sur les pommes de terre. Effectivement, ça se mange aussi bien en salé.
Merci beaucoup, Élise Laudren.
Merci à vous.
Tianuendo, à part le gouel qui est peut-être un peu difficile à faire parce qu'on n'a pas tous des vaches pinoires dans son champ, hein, dans son jardin, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la fermentation? Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs, nos auditrices? Est-ce que par exemple tous les légumes et les fruits sont bons à fermenter?
Il y a tellement de choses à faire. En fait, c'est comme l'écologie. Les portes d'entrée pour rentrer dans la fermentation sont multiples. Vous pouvez avoir envie de faire votre pain, vous pouvez avoir envie de faire votre yaourt, le fromage. Il n'y a pas forcément besoin de ferment spécifique. En fait, le lait possède en lui toutes les propriétés et capacités pour pouvoir fermenter naturellement. Après, c'est lui offrir les conditions favorables pour la fermentation.
Il y a des règles très strictes à respecter.
Quand même un petit peu d'hygiène. Mais en vérité, le lait est capable de fermenter tout seul. Vous pouvez décider de faire du miso. C'est possible de faire du miso chez soi. Moi, ce que j'adore faire chez moi, c'est du tempeh. Le tempeh, c'est des graines de soja fermentées. Donc, on va inoculer un champignon, une spore, qui va en fait créer un mycélium tout autour des graines de soja pour former une forme de nougat et qu'on va faire fermenter pendant 24 heures. Et donc, c'est une alternative, un substitut à la viande très, très intéressant puisqu'on retrouve le même taux de protéines dans une tranche de tempeh que dans 100 grammes de bœuf.
Vous avez essayé, Anne-Sophie Moreau, mais vous n'avez pas l'air d'avoir très envie de recommencer. Est-ce que c'est parce que le goût ne vous a pas conquise? Est-ce que c'est le goût pour une vie saine avant le goût pour le goût?
Ah non, moi j'adore manger des produits fermentés, mais c'est vrai que lorsque j'ai essayé de produire du kéfir à partir de grains de kéfir qu'on m'a donné, évidemment, puisque comme on l'a
dit, c'est quoi le kéfir?
Alors le kéfir, c'est une symbiose entre levure et bactéries qui crée une boisson. C'est une boisson.
C'est liquide ou lactique?
Hein, alors il y a soit du kéfir de fruits, soit du kéfir de lait, et dans tous les cas c'est lacto-fermenté, c'est-à-dire que ça produit de l'acide lactique. Et
vous avez essayé?
Alors moi, c'est plutôt que j'ai été fascinée et presque débordée par la vitalité de la reproduction de ces grains de kéfir. C'est-à-dire que je pense que ce qui nous fascine dans l'aliment fermenté, ou en tout cas les raisons pour lesquelles on le fait, c'est que d'une part, il y a effectivement cette idée qu'on va retrouver de l'entraide, un système horizontal d'échange qui permet de s'abstraire du système agroalimentaire et de la distribution capitaliste venue d'en haut, etc. Et d'autre part, je pense qu'il y a une fascination finalement pour cette forme de régénération infinie de la vie, voilà, qui parfois nous déborde, ça devient trop, on se retrouve avec trop de grains de kéfir, on ne sait plus à qui en donner. Et je pense que dans une société qui est face à la perspective tout de même assez déprimante et peu inspirante de la décroissance, je pense que le modèle de la régénération est beaucoup plus inspirant, beaucoup plus motivant pour les gens. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'intéresse au micro-vivant.
Il faut absolument lire ces deux livres en même temps presque. Fermentation au pluriel, kéfir, compost et bactéries. Pourquoi le moisi nous fascine, Anne-Sophie Moreau, aux éditions du Seuil. Et de la pratique avec de l'éthique de vie, Tianuendo, fermentation, rébellion, petite philosophie de la fermentation, aux éditions des Équateurs. Puis vous donner quelques conseils pour comment réussir sa fermentation et l'apprécier, et avec la réflexion à côté d'Anne-Sophie Moreau. C'est très intéressant, c'est passionnant, à poursuivre donc, chacun, chez soi, mais ensemble, pour la réflexion. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France, avec aujourd'hui, en cuisine, Seam Boutata, Taïsia Froidure, Audrey Carm et à la technique d'Ali Ya. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.